Bonjour à tous, je vous remercie d'abord de m'avoir invité. J'ai beaucoup appris ces premiers échanges. Je crois que c'est une bataille qui commence et je voudrais dire d'abord, avant de venir plus spécifiquement sur la production artistique ou ludique et le P2P, que c'est une bataille d'une beaucoup plus grande ampleur. La bataille sur la propriété intellectuelle qui se livre sur de très nombreux terrains actuellement est en train de servir de lieu de cristallisation, d'enjeu fondamental de la restructuration des rapports entre, disons pour faire simple, pays dominant, pays dominé. On assiste à la mise en place d'une troisième division internationale du travail qui va probablement déterminer tous les rapports de force pendant le 21e siècle. La bataille sur la propriété intellectuelle, sur l'appropriation juridique de propriété intellectuelle, est en quelque sorte la manœuvre décisive dans cette guerre. Alors, je vais être très rapide, parce que quand même on a cité un tas de noms, OMPI, etc. Il faut quand même avoir une petite idée de dans quel cadre tout ça se déroule, même si, comme je vais le montrer, et comme vous l'avez bien vu, évidemment, pendant tout ce débat, l'affaire du P2P et de la musique touche de tous autres problèmes par ailleurs. Donc il faut, dans chaque chose, il y a du général et il y a du spécifique. Alors, commençons par le plus général, cette bataille sur la propriété intellectuelle que vous voyez, alors sur la bataille sur les OGM, la bataille sur le brevet logiciel, la bataille sur les styles, enfin les looks, enfin tout cette appropriation, cette bataille pour l'appropriation juridique, le verrouillage de ce que nous, les Verts, serions tentés d'appeler du patrimoine intellectuel de l'humanité. Alors pourquoi cette guerre avec cette bataille qui se mène dans une des branches de la négociation de l'OMC, les TRIPS, traité sur la propriété intellectuelle, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI? Pourquoi ? Parce que les deux divisions du travail internationales qui avaient permis au Nord de faire travailler le Sud pour pas grand-chose, sont en train de perdre de leur capacité de captation de richesses internationales. Alors vous avez eu pendant, disons, depuis la découverte des Amériques et même avant, la première division internationale du travail, en gros le Nord fait le manufacturier, le Sud fait les mines et l'agriculture. Bon, ça s'est beaucoup compliqué dans les années récentes, puisque le Nord est devenu au contraire, pendant de façon assez transitoire, disons dans les années 60-70, dominant dans la production agricole. C'était l'époque de l'arme alimentaire. Il a essayé de rester jusqu'ici dominant par des subventions aux exportations. Et une des batailles dans le cycle de Doha, c'est que le Sud dit, il y en a marre, vous arrêtez vos subventions aux exportations, sinon nous, on arrête d'acheter vos machines et on arrête d'acheter vos biens tertiaires et culturels. C'est la négociation actuelle à l'OMC. Et les modernistes, disons, parmi les grands stratèges de la division internationale du travail, sont pour abandonner l'agriculture au Sud. C'est un peu le cadeau fait dans la négociation de l'OMC. On dit, Pascal Lamy dit, moi je veux bien qu'on arrête les subventions d'exportation, mais en échange, reconnaissance inconditionnelle de la propriété intellectuelle. Même chose, mais de façon plus intéressante, du côté de ce qu'on appelle la deuxième division internationale du travail, celle qui s'est mise en place dans les années 70. En gros, c'était la prolongation du taylorisme à l'échelle géographique. Dans toute activité industrielle, et même tertiaire, il y a la conception et la réalisation des qualifiés. La conception va être au nord et la réalisation, la fabrication des qualifiés va être au sud. Ça a été l'époque des états ateliers, les fameux quatre dragons d'Asie, plus le Mexique et le Brésil. Ça a commencé dans les années 70, ça a atteint son maximum d'efficacité dans les années 80-90. Et maintenant, ces pays, suivis d'une myriade d'autres, suivis de dizaines d'autres, sont en train de devenir, sont en train de se réapproprier, de remonter dans la division internationale du travail, donc s'approprier elles-mêmes les techniques de production, D'ailleurs, la division du travail, les laboratoires et les centres techniques sont au nord, les usines de montage sont au sud, est en train également de s'éroder, puisque les centres techniques, les centres d'ingénierie, sont de plus en plus, eux aussi, au sud, avec notamment la montée de l'Inde, qui devient le premier producteur de software du monde. Bon, alors, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, une espèce de remontée d'un cran dans la deuxième division du travail, c'est-à-dire on va essayer de breveter ce que vraiment là où on a un peu d'avance, c'est-à-dire les pures productions intellectuelles qui servent d'outils à l'activité de conception en général, c'est-à-dire l'activité scientifique et artistique. Alors la propriété intellectuelle devient donc, sous un nom où, comme il arrive assez souvent, l'art devient le paravent esthétique et la science devient le paravent intellectuel d'une énorme opération de défense des intérêts financiers et économiques, on a cette bataille de la propriété intellectuelle qui aboutira, bon, on l'espère au XXIe siècle, enfin, certains l'espèrent au XXIe siècle, sur la production intellectuelle se fait au Nord, et puis tout le reste, tout ce qui n'est pas créatif, tout ce qui est routinier, tout ce qui est, même à la limite recherche appliquée, tout ce qui est blueprint, comme on dit, se fait au Sud. Et alors ça veut dire qu'il faut, c'est ça l'intérêt énorme de l'opération, là je m'approche maintenant du P2P, ça implique une redéfinition massive de ce qui est appropriable et ce qui ne l'est pas. Peut-on breveter, peut-on enclore, peut-on interdire l'accès de ce qui était jusqu'à présent considéré comme du patrimoine intellectuel, culturel, scientifique, etc. Parce que c'est évident que par rapport à la deuxième division internationale du travail, où en gros ben, Renault vendait à un sous-traitant mexicain ou colombien les plans de la Renault 4. Hein, mais garder absolument tous les droits sur la Renault 4. Alors la division du travail entre l'atelier d'ingénierie de Boulogne qui avait conçu la Renault 4 et les usines de Cléon, de Sandouville, etc. qui fabriquaient la Renault 4 existait déjà à l'intérieur de Renault. Ce n'était qu'une extériorisation d'une division déjà du travail déjà existant dans Renault. Quand vous ne vendez pas des plans de Renault 4, mais le concept de voiture, à la limite, hein, ou le concept de, je sais pas moi, de frein ABS, hein, et pas la façon de fabriquer les freins ABS, mais le concept même de frein ABS. Hein, là, vous rentrez dans une bataille juridique beaucoup plus compliquée pour essayer de monopoliser la rente intellectuelle née d'idées qui jusqu'à présent étaient considérées comme faisant partie du patrimoine de l'humanité aussi bien qu'elles avaient été aussitôt qu'elles avaient été produites. La bataille du logiciel en est une parfaite illustration puisque pratiquement on a passé notre temps au Parlement européen à essayer de faire le découpage entre la deuxième division internationale du travail, enfin la division conception-réalisation si vous voulez, hein, brevet technique, application, hein. Et puis la troisième, c'est-à-dire idée scientifique et application. C'est ça l'enjeu épouvantable. Je connais ça depuis très longtemps. Je suis chercheur. Je connais depuis très longtemps, puisque je suis dans un institut de recherche d'économie mathématique, le problème de la divergence fondamentale qui est entre l'Europe et les États-Unis, où en Europe, on considérait que la production intellectuelle, déjà assez applicable comme les algorithmes, faisait partie du patrimoine commun de l'humanité, alors qu'aux États-Unis, un algorithme, c'est déjà une technique. Et ça, depuis 1970. J'ai déjà eu, dans le début de l'année 70, j'ai déjà eu des exemples amusants de cette divergence entre les deux. Alors, évidemment, si on, pour nous, les Verts, c'est une bataille stratégique, ou pour nous, toutes, que ce soit le P2P, que ce soit la bataille des logiciels libres, que ce soit la bataille des OGM, font partie d'une seule et unique bataille. Et nous défendons farouchement la défense d'un patrimoine intellectuel, culturel et scientifique commun de l'humanité contre ce que nous appelons le nouveau mouvement des enclosures, hein, qui cherche à dire Si vous voulez protéger et reproduire et produire et développer ce patrimoine, il faut qu'il profite à ceux qui le produisent. Hein. Donc il faut l'enclore exactement comme au XVIIe siècle, lors de la première révolution agricole, la deuxième, parce qu'il y avait eu avant le néolithique. Hein. C'est une révolution dans le néolithique. On a dit, s'il y a des fermiers qui veulent bien entretenir leurs terres, il faut qu'ils y aient intérêt. Donc il faut en finir avec la vaine pâture, avec tous les champs communs où les paysans pouvaient avoir un accès libre à la terre. Alors ce mouvement des enclosures qui a permis la prolétarisation des paysans et l'émergence des paysans riches, ça va être ça la grande bataille du XXIe siècle sur les biens intellectuels. Nous sommes pour dire, au contraire, que ces biens intellectuels sont les conditions de la richesse collective et qu'il faut les maintenir communs le plus possible. Alors, naturellement, l'objection fondamentale qui est faite ici, c'est, produire ces biens collectifs, ça coûte. Ça coûte, produire et entretenir ces biens collectifs, ça coûte, et il faut bien rémunérer ceux qui les produisent ou qui les entretiennent. Je dis bien, et qui les entretiennent. La lutte contre l'oubli fait partie du travail intellectuel, n'oublions pas. Nous, les Verts, on est par exemple de ceux qui mènent la bataille pour la rémunération du savoir indigène sur la biodiversité. La formidable connaissance humaine sur la biodiversité cachée est un enjeu, une espèce de mine, d'une mine à ciel ouvert, hein, où les firmes pharmaceutiques viennent se servir gratuitement et nous essayons de faire rémunérer les paysans de l'Amazonie, des Andes, etc., qui ont entretenu cette biodiversité au péril de leur vie et qui savent à quoi elle sert. Ce qui est le problème principal. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas dire qu'on va se battre contre l'OMPI. L'OMPI est un des moyens, effectivement, c'est un peu comme l'OMC, d'une façon générale. C'est l'arène où on décide de ce genre de choses. Alors, on pourrait dire qu'on veut y supprimer l'OMPI, mais en même temps, c'est à l'OMPI qu'on essaie, lors de la conférence intergouvernementale sur les savoirs indigènes, d'inventer un concept de rémunération pour les savoirs indigènes et de le garantir. Il ne suffit pas de l'inventer, il faut le rendre legally binding, c'est-à-dire il faut qu'il soit d'un cours international contraignant. Là, il faut bien reconnaître que l'Europe et les États-Unis sont alliés contre les peuples du Sud. C'est très clair. À l'OMPI, c'est pas la bureaucratie de l'OMPI au service des multinationales qui, etc. Non, ce sont les gouvernements américains et le représentant du commissaire Lamy, en l'occurrence, puisque c'est lui qui s'occupe de ce type de problème, qui font bloc contre... Nelson sera pire, probablement encore. Qui font bloc contre les peuples indigènes. Alors, il y a toute une série d'instances où ces batailles se jouent. On ne peut pas les ignorer parce qu'elles seront légalement contraignantes. C'est elles qui vont fixer à la fois qu'est-ce qui va rester bien comme patrimoine de l'humanité, qu'est-ce qui va être appropriable sous forme commerciale, qu'est-ce qui, sans être appropriable sous forme commerciale, fera l'objet d'une rémunération du producteur ou du mainteneur du patrimoine commun de l'humanité, etc. Le Parlement européen et la Commission et le Conseil sont un des lieux de production dans lequel on voit très clairement que le Parlement est encore légèrement majoritaire pour la défense du patrimoine intellectuel commun. On l'a vu dans la bataille sur le rapport fourre-tout, on le voit dans la bataille sur les logiciels libres, mais le Conseil et la Commission, évidemment, sont de l'autre côté. Ils sont clairement de l'autre bord. Alors l'affaire est devenue ridicule avec le rapport fourre-tout, hein, sur lequel a été vaguement évoqué incidemment ce matin, peut-être pas sous ce nom-là d'ailleurs. C'est amusant quand même de se dire que c'était le rapport de Madame Fourre-tout. Hein. Madame Fourre-tout, femme de Monsieur Fourre-tout, était la rapportrice sur la protection de la protection intellectuelle en avril dernier. Alors que, elle était quand même quelque part Madame Vivendi. Et alors, elle protégeait en même temps les intérêts de Louis Vuitton, puisque c'était aussi le style hein, qui était protégé, les designs, la propriété du design, qui est aussi une des batailles au sein de la 2e division internationale du travail, la bataille sur le design, hein, la propriété intellectuelle du design, et elle protégeait évidemment les majors contre le peer-to-peer. Nous nous sommes retrouvés isolés dans cette bataille. Hein. Finalement, le PS et le PC, enfin le PSE et le parti communiste, la GUE, ont voté pour ou se sont abstenus sur le rapport vote. C'est ça a été l'important. Mais c'est un peu dur de se retrouver à 33 voix contre hein, dans une bataille où on défend, nous semble-t-il, l'intérêt commun de l'humanité. Alors la bataille, c'est bon, on n'était même pas tous là. Que vous indique le chiffre. Donc, je pense que les forces de gauche n'ont pas encore mesuré hein, l'enjeu colossal qui se livre là. Alors, nous sommes, comme nous le faisons pour les OGM, nous sommes prêts à sortir de la légalité. Nous avons organisé une conférence au Parlement européen autour de John Johansen, vous savez, le jeune Norvégien qui a craqué le code du DVD, le code de l'iTunes. Hein. Il ne faut pas hésiter, exactement comme nous menons la bataille contre les OGM soi-disant expérimentaux en plein champ, qui sert en fait à contaminer les autres champs de façon à ce que plus jamais il n'existe de culture normale ou de culture, encore moins de culture bio. Hein. Il ne faut pas hésiter à s'engager, à mener cette bataille, y compris en sortant de la légalité. Alors, il faut quand même répondre à la question de cette rémunération. Ça fait sourire l'expression économie du don. Non, ça ne nous fait pas rire du tout. Nous, l'économie du don, pour nous, c'est quand même, allez, 90% de la vie matérielle de l'humanité. L'économie du don et du contre-don, ce qu'on appelle la réciprocité, est très antérieure aux deux autres formes d'économie qui sont devenues dominantes à partir de l'Antiquité pour l'une et du Moyen-Âge pour l'autre, c'est parce que Polanyi appelle la redistribution et l'échange. Il y a trois formes de socialisation du travail. La réciprocité. Je donne ce que je peux, parce que j'espère de la communauté qu'elle me donne ce dont j'aurai besoin. En gros, c'est l'économie de la famille. Alors, ça peut être très contraignant, très chiant. Ceux qui s'engagent dans ce boulot, les webmestres... les régulateurs, on a cité tout à l'heure les exemples hein, de cette économie fondée sur l'amour, le devoir assumé, etc. Cette idée concerne la communauté, ça peut être casse-pied, je suis totalement d'accord, et à la fin on se dit, mais enfin pourquoi je ne suis pas payé pour faire ça? Les femmes, pendant des dizaines de milliers d'années, ont fait ça gratuitement, et un jour elles disent, pourquoi je ne suis pas payé? Pourquoi est-ce que je ne suis pas payé pour faire ça? Et si ça doit être gratuit, que tout le monde s'y mette. Bon, à un certain moment, la communauté elle-même, l'économie de service fondée sur le don, devra assumer le fait que c'est un boulot, ou bien ça doit être rémunéré, ou bien il faut que tout le monde s'y mette. Alors ça, c'est un véritable problème. Hein. Le peer-to-peer est fondé sur ce sentiment de communauté. Je mets mes trucs en ligne, j'essaie de le faire bien, mais même iTunes, etc., enfin, la mise, vous savez, quand vous appuyez, quand vous cherchez à télécharger les titres d'un CD, par exemple sur Mac, bon, y a des gens qui ont mis en ligne la première analyse des titres d'un CD. Hein. Souvent, c'est mal fait, ça m'agace. Donc, y compris à l'intérieur de l'économie de don contre don, il devrait y avoir des normes, si on peut trouver qu'il y a des volontaires qui sont vraiment amateurs. C'est agaçant. Bon, on voit ça aussi dans le peer-to-peer, c'est mal fait. À certains moments, c'est vraiment mal foutu. On râle. Bon. Alors, vous voyez qu'on a toujours tendance, mais ça, c'est un très, très vieux problème de la famille, de l'Église et du mouvement associationniste. Aujourd'hui, vous avez une crise du mouvement associationniste, parce qu'il y a des usagers communautaires qui se comportent comme des clients commerciaux et qui trouvent que c'est mal fait, hein, que l'UNCM ou l'UCPA rend mal les services associatifs qu'ils sont censés rendre, et ainsi de suite. Alors, l'UCPA, c'est pas quasiment une entreprise commerciale, d'accord. Bon. Alors, pourquoi est-ce que je cite l'associatif? Parce que c'est la forme moderne où se trouve l'affrontement actuellement. c'est pas la famille. Hein, personne ne va reprocher aux femmes de faire de la bouffe gratuitement, alors qu'il existe des restaurants. On n'ose pas. On n'ose pas. Hein. Ça pourra venir. Ça pourra venir. Hein. Mais on osera un jour, probablement. Et en tout cas, bon, l'association, tout le monde est content qu'il y ait des associations de canoë kayak, de voile, etc., pour apprendre au prolétariat à faire du sport. Mais une fois que ce prolétariat a acquis un certain niveau de revenus, le fisc arrive en disant à ces associations, attendez, vous faites une concurrence illégale hein, aux entreprises qui louent des canoës kayak ou qui les vendent. Hein, donc c'est une bataille qu'on a appelée la bataille de l'instruction fiscale et qui ressemble énormément au P2P, énormément à la bataille du P2P. Vous devriez vous en inspirer d'ailleurs, c'est les mêmes batailles qui ont lieu plus ou moins. Alors, je tourne un petit peu autour du pot, je ne vais pas vous donner une solution au problème de la rémunération, je dis simplement que la structure mixte du don contre don, avec tout ce qu'elle implique de mélange avec les deux autres structures économiques qui sont la redistribution et l'échange, ça a toujours existé et ça existera toujours et ça sera toujours majoritaire. On ne peut pas concevoir une économie fondée sur le simple système de redistribution ou sur le simple système de l'échange. Cela dit, en général, la réalité est toujours mixte. Vous avez toujours dans toute réalité un échange de don contre don, un mélange de don contre don, de redistribution et d'échange pur. Alors la redistribution, vous voyez ce que c'est, hein, c'est obligatoirement tout le monde doit cotiser une caisse commune qui se charge de redistribuer selon d'autres règles. Pas proportionnellement à ce que vous avez mis, sinon ça ne sert à rien évidemment, mais selon d'autres règles, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez des impôts. Les impôts, l'État paie les enseignants et les enseignants distribuent leur enseignement gratuitement. Bon, ça, c'est la redistribution. Vous payez des impôts, l'État paie des policiers, l'État protège les propriétaires gratuitement. Ça, c'est la redistribution. Et ainsi de suite. Bon. Et puis, alors, l'échange, c'est je fais quelque chose, je le propose à la cantonade, quelqu'un en veut, bah, je le lui donne contre l'argent qui me permettra, moi, d'acheter quelque chose hein, qui est proposé à la cantonade. Dans la réalité, et je finis là, des activités artistiques, ce système mixte est quasiment structurel à cause justement de l'activité artistique. C'est pour ça que le P2P n'est que la pointe avancée des deux problèmes que je viens de vous pointer, des deux problèmes généraux que je viens de vous pointer. La question de la division internationale du travail fondée sur l'appropriation et l'enclosure de la connaissance, et la question du tiers secteur, disons, de l'économie de la réciprocité coincée sous les assauts du public ou de la distribution publique ou de l'échange. Pourquoi ? Parce que les activités intellectuelles, comme les activités artistiques ou la recherche scientifique, sont en quelque sorte, par essence, soumises à la diversité des formes de rémunération. Vous avez à la fois, je suis un peu inquiet parce que cette sonnerie me semble être quelque chose qui me... Oui, ça va être à moi. Excusez-moi. La réunion suivante m'appelle déjà. mais enfin quand même. On peut dire d'une certaine façon que la production artistique a été le prototype depuis alors là, le néolithique hein, de la possibilité d'être rémunéré sous les trois formes. Bon, vous savez que c'était l'Église et l'Église représentait typiquement ce mélange de tiers secteur, disons réciprocité, de redistribution et éventuellement d'échange qui existait depuis le Moyen Âge. Ça ressemblait à de la redistribution. Hein. L'église qui fournissait à la fois les cathédrales et la musique qu'on jouait dedans, elle s'alimentait sur quoi ? À la fois sur les quêtes, vers le don, et sur des trucs très obligatoires, qui étaient les rentes qu'elle prélevait sur les champs alentours. Hein. L'église était propriétaire foncière, elle aussi. Après, vous avez eu des artistes qui ont commencé à échanger leurs prestations contre de l'argent. D'un client qui venait s'asseoir, les écouter ou les regarder, Molière, typiquement. Mais même à ce moment-là, Molière était subventionné, lui aussi, par des notes. C'est-à-dire que l'idée de combiner de la redistribution et du marché, au nom du fait qu'un artiste ne peut pas être rémunéré seulement quand il se produit, mais aussi à tout temps, simplement pour sa simple existence, parce qu'il est là pour penser, écrire, composer, etc., s'entraîner, hein, s'exercer, même quand il ne se produit pas, est structurel dans l'activité artistique. Structurel. Alors, est-ce que, d'une certaine façon, c'est à la confiance de ces données que se posent les problèmes qu'on a traités ce matin. Le problème, d'une certaine façon, qui a été essentiellement abordé sous l'angle major contre indépendant, hein, ce matin, du point de vue strictement affrontement, nous renvoie directement à des batailles, parce qu'elles sont, du point de vue du rapport de force, extrêmement semblables entre, disons, vieux producteurs de soft du Nord et jeunes producteurs de soft du Sud. C'est un peu les mêmes batailles, et très souvent, c'est les mêmes fronts juridiques. La bataille sur la rémunération et la notion de réciprocité comme forme de rémunération, avec les pâtissiels. Pâtissiel est l'exemple le plus chaleureux, puisque c'est une forme de software où on rémunère pour le prix d'une pinte, hein, d'une bonne bière à boire, etc. Au Québec. Bon, cette idée de chaleur de la communauté comme forme de rémunération est évidemment pour les Verts quasiment l'idéal, puisque ce serait l'entretien du patrimoine commun de l'humanité par des formes de communauté où la rémunération prendrait elle-même une forme ludique. Bon, nous savons très bien que l'idéal est très difficile à défendre, très difficile à obtenir, très minoritaire, et donc nous irons par là pas à pas. Cela dit, il faut toujours avoir en tête que ce modèle existe, peut exister. L'Église continue largement à fonctionner sur l'Église. C'est quand même énorme. Hein. L'Église continue encore largement à fonctionner, pas seulement sur les loyers qu'elle a pu conserver, mais également sur le denier du culte, etc. La plupart des grandes ONG mondiales, le WWF, par exemple, le Greenpeace, fonctionnent sur des dons libres. Hein. Médecins du Monde, etc. Ça fonctionne sur des dons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent que c'est bien de payer ça pour que ça existe de façon à ce que... Donc ce modèle continue à exister et continuera à exister. Le dénigrement qu'on a cité là pour ce fan de... C'était Florent Blanc-Peigny qui est capable de se dédier comme une bonne sœur se dédie à son Christ. Hein. Ça va continuer à exister et ça va continuer à faire fonctionner une partie de cette économie. Bon, alors, d'autre part, se pose la question, à partir du moment où des gens acceptent d'être des producteurs de la culture, demandent simplement une rémunération, il va falloir que l'État prévoie plusieurs types de rémunération possibles et anticipe le fait qu'un artiste, c'est quelqu'un qui tantôt joue en public, tantôt vend des droits un éditeur qui va faire des CD, et tantôt se met en ligne. Il va falloir probablement qu'on prévoie, et là l'ordre public va devoir mettre son nez, comme on l'a fait pour l'instruction fiscale, dire dans certains cas on paie la TVA, dans d'autres non, dans certains cas il faut payer des cotisations sociales pour payer les musiciens, etc. Pourquoi je cite le problème des musiciens? Parce que vous savez très bien que le modèle Molière, hein, c'est-à-dire on se produit, on paye, on encaisse le prix du fauteuil qu'on a vendu, ou bien on est entretenu par le prince de Conti, hein, ou monsieur, c'est un modèle qui s'est maintenu dans la culture, hein, par le modèle des intermittents du spectacle. On continue à considérer, jusqu'à une date récente, et c'est toujours une bataille, que l'État doit continuer, ou la collectivité doit continuer à entretenir les travailleurs intellectuels ou les travailleurs artistiques, même quand ils ne se produisent pas, quand ils sont provisoirement au chômage. Ce modèle est extrêmement important, et il est l'attaque contre le peer-to-peer, et jumeau de l'attaque pour diminuer les droits des artistes quand ils ne se produisent pas, c'est-à-dire l'origine des intermittents du spectacle. Donc vous voyez que vous êtes au cœur ici, même si c'est totalement anecdotique apparemment le P2P, vous êtes au cœur d'un réseau extraordinairement important de débats du XXIe siècle. Le fait d'être au cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des ennemis qui vous tombent dessus alors qu'on ne s'y attendait pas. On croyait faire des trucs innocents et paf, on a marché sur les pieds de quelqu'un. Hein. Je prends les majors. Alors les majors, elles peuvent basculer effectivement d'un mode de distribution à un autre, mais un peu, elles sont encore très liées au modèle de la deuxième division du travail. C'est-à-dire que pour lui, pour elle, pour le major, l'intellectuel qui est l'artiste est quelqu'un qui lui produit du software, du blueprint, pour vendre des CD, des disques, du hardware. Elle vend des disques. Hein ? Elle ne vend pas de la musique, la major. Elle ne diffuse pas des morceaux de savoir culturel ou intellectuel. Elle vend des disques. Et l'auteur intellectuel d'un disque est, pour elle, comme un des multiples ingénieurs qui ont contribué à produire le disque. Alors si elle doit vendre autre chose, elle vendra autre chose. Hein ? Mais elle vendra bien quelque chose dans lequel la production intellectuelle aura de l'artiste aura une part qui restera à jamais mineure. Nous en sommes à la quatrième ou cinquième génération de la façon de stocker physiquement de l'informatique. Hein. On a fait le floppy disk, la disquette, le CD, etc. Et à chaque fois, pour ceux qui font de l'informatique depuis plus de 20 ans, il faut tout recommencer. Hein. Moi, j'ai commencé avec les, les bobines. Hein. Donc, et à chaque fois, j'ai dû tout restocker. Ça prend du temps. On a une sorte de lutte mais menée par le hard, pas par le soft. Le soft, c'est un des moyens de garder le contrôle sur le hard. Mais dans le cas des majors, bon, ils pourront basculer, mais ils trouveront autre chose. Ils vendront du hard. Hein. Bon, Macintosh en est le meilleur exemple, dans le cas de la deuxième division internationale du travail. Bon, vous avez des ennemis inattendus. Nous avons des ennemis inattendus. Mais ça veut dire aussi que face à ces ennemis inattendus qui nous tombent dessus, alors qu'on croyait faire une pratique bien innocente, ben, il faut se faire des alliés. Il faut comprendre que défendre le droit d'échanger une chanson inconnue, mais qu'on est le fan qui a découvert il y a quelques mois, avec un copain, défendre ce droit, c'est la même bataille que défendre le droit du paysan du Bangladesh à utiliser un morceau de la récolte de l'année dernière pour ressemer du riz l'année prochaine. Alors ça a l'air très 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 loin. Les médiations ont l'air extrêmement complexes, mais je crois que c'est la noblesse de la politique, mais aussi la recherche scientifique, hein, la sociologie, de le montrer. Construire des alliances face à des ennemis qui vous veulent du mal, alors que on ne pensait pas les avoir particulièrement agressés, je crois que c'est ça que nous avons à faire, et je remercie encore une fois votre association de m'avoir invité. J'espère que nous pourrons contribuer de façon plus efficace que dans le passé à lutter pour la défense des patrimoines intellectuels et culturels de l'humanité contre ceux qui veulent le barricader sous de nouvelles enclosures.
Merci Alain d'être venu partager cette matinée avec nous. Donc, je vous donne rendez-vous ici pour la reprise à 14h. Je vous demande s'il vous plaît de vous présenter un peu avant, que cet après-midi on sera encore plus nombreux et le temps que le flot des participants s'écoule à l'accueil, pour enfin, nous permettre de commencer à l'heure vu que notre heure de clôture sera impérative. Je vous remercie.